Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi, la République démocratique du Congo s'apprête à entamer dans des conditions périlleuses un nouveau cycle électoral à partir du mois de décembre. C'est ce qui est dit dans le dernier rapport de l'ONG International Crisis Group intitulé « Élections en RDC, limiter les risques de violence ». Le tout nouveau commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapendi-Rung, a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de présentation et de remise de l'étendard présidée par le chef d'état-major des forces terrestres hier vendredi à Lubumbashi. Notre invité est le ministre provincial des Transports et Voies de Communication dans la province du Sud-Kivu. Alimasi Malumbi Mathieu nous parle du bilan de l'opération de numérisation des véhicules et de l'achat obligatoire des documents exigés aux transporteurs des personnes et des biens dans la ville de Bukavu. Mesdames et messieurs, bonjour. Grâce à Mzati Masanzi, vous présente ce journal mis en onde par Patrick Kassongwa. La RDC s'apprête à entamer dans des conditions périlleuses un nouveau cycle électoral qui commencera en décembre et se poursuivra au cours de l'année 2024. Cette déclaration est contenue dans le dernier rapport de l'ONG International Crisis Group intitulé « Élections en RDC, limiter les risques des violences ». Les combats dans l'est du pays et dans d'autres régions ont privé plus d'un million de citoyens de leur carte d'électeur. L'opposition, confrontée à une répression accrue du gouvernement et à une commission électorale nationale indépendante qu'elle considère comme favorable au parti au pouvoir, est tentée de rejeter chaque étape de ce processus. Parallèlement, le risque de violence localisée est élevé. Un résultat présidentiel serré ou contesté pourrait également conduire à une crise nationale, comme ce fut le cas en 2018, indique International Crisis Group. Les détails avec Alain Runga.
Selon International Crisis Group, pour atténuer ces risques, le gouvernement devrait veiller à ce que tous les partis puissent faire campagne sans subir d'intimidation ni des restrictions injustifiées. Il devrait s'assurer que la CENI, qui doit elle-même rémunérer son personnel et lutter contre l'extorsion des électeurs, soit financée de manière adéquate. Pour améliorer les chances d'élections légitimes et pacifiques, le gouvernement devrait prendre des mesures fortes pour limiter les abus de pouvoir et créer un environnement propice à une campagne électorale équitable et à des élections libres et transparentes. La première de ces mesures devrait être de veiller à ce que les forces de sécurité respectent les libertés fondamentales et de sanctionner les responsables des violations. La mise en examen d'officiers et de soldats impliqués dans le massacre de Goma du 30 août n'est qu'un point de départ. La réduction des discours incendiaires sur les réseaux sociaux et dans la rue fait aussi partie de ce chantier nécessaire pour améliorer le climat électoral. Ensuite, dans un contexte marqué par une incertitude continue, il est important de chercher un consensus politique à minima entre le pouvoir et l'opposition, souligne International Crisis Group.
Par ailleurs, l'état de santé de Salomon Kalonda Dela est préoccupant et nécessite une prise en charge qui est incompatible avec la procédure judiciaire intentée en son encontre. Déclaration hier vendredi à Radio Kapi de son avocat. Selon Maître Hervé Diakessé, c'est un procès de l'acharnement judiciaire qui viole les droits de l'homme. Il est au micro d'Alain Irung.
Ce constat résulte non seulement d'un diagnostic effectué par son propre médecin soignant à l'attention de la cour militaire, mais aussi sur base d'une contre-expertise exigée et requise par l'auditeur militaire supérieur, qui a été effectuée par trois centres de santé, lesquels sont venus avec une vingtaine de médecins pour aboutir au même diagnostic, c'est que l'état de Salomo Kalonda Dela est instable et nécessite une prise en charge qui, pour le moment, est incompatible avec la procédure judiciaire intentée en son encontre. Aussi, avons-nous été surpris lors de la dernière audience, qui s'est tenue le 1er novembre dernier, que l'auditeur militaire supérieur, à la requête de qui la contre-expertise avait été effectuée, puisse demander à la cour d'opérer une audience foraine dans la chambre d'hôpital de Salomo Kalonda Dela, afin qu'il y soit jugé. Une personne qui est sous respirateur, dont on va commencer à enlever le masque pour qu'il donne les réponses, et puis on lui remet les masques pour qu'il continue à respirer et entendre les questions, c'est contraire aux droits humains.
En plus bref, une troisième audience a eu lieu hier vendredi dans l'affaire Stanny Boujakera. Devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant à la prison de Makala, les avocats du directeur des publications adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeunes Afrique ont renouvelé leur demande formulée lors de l'audience de vendredi 20 octobre, notamment une contre-expertise au regard des multiples contradictions de l'accusation. Le tribunal va se prononcer le 17 novembre sur la demande de contre-expertise. Pour la liberté provisoire, les avocats espèrent une décision d'ici lundi prochain. La contre-expertise apportera entre autres la manifestation de la vérité en ce qui concerne la prévention des fabrications des sceaux de l'Agence nationale des renseignements ANR retenue contre Stanny. Lors de la précédente audience, les avocats du journaliste avaient demandé au tribunal de réquisitionner l'ANR afin d'apporter le sceau original qui figure sur les documents qui est à la base de l'arrestation de M. Boujakera. Parlons du conflit Mbole-Lengola dans la Tchopo. Georges Boussefalai, notable de cette province et candidat à l'élection présidentielle de 2023, appelle les deux communautés à enterrer l'arche des guerres pour le développement de la province et à se concentrer sur les élections qui pointent à l'horizon. Dans un message intitulé « Message de paix, de réconciliation et d'espoir suite à la crise qui déchire les Mbole et l'Engola », publié hier vendredi ici à Kinshasa, cet ancien directeur de cabinet de feu, président Laurent Désiré Kabila, rappelle à ses communautés que, depuis la nuit des temps, leurs ancêtres vivaient ensemble et les ont élevés ensemble dans ces mêmes espaces où l'on pratique l'agriculture, la pêche et l'élevage. D'autres détails avec Fulbert Balolagué.
Au moment où je fais ce message, les larmes sont en train de couler de mes yeux pour la simple raison qu'au moment où mes challengers sont en train de consolider leur base, dans ma famille restreinte qui est la Tchopo, les gens sont en train d'être enterrés jour et nuit suite à une guerre froide qui nous vient de l'extérieur par les ennemis de la Tchopo, s'adresse Georges Boussefalai aux habitants de la Tchopo, particulièrement aux communautés Mbole et Lengola. Selon lui, c'est l'histoire de la rébellion de 1964 qui se répète sous une autre forme, une rébellion qui, créée ailleurs, viendra trouver un terrain propice dans l'espace de la Grande Orientale, faisant trop de victimes et de dégâts. Aujourd'hui, c'est la guerre économique dont les grands bénéficiaires ne sont ni Mbole ni Lengola qui est en train de ravager nos deux communautés, déclare ce sénateur honoraire. Nos ancêtres, avec le degré d'amour qui les caractérisait, ne nous ont même pas inculqué un seul instant la notion des limites ou des frontières dans notre espace commun, poursuit-il. Pour lui, la Tchopo en général et la ville de Kisangani en particulier demeurent un berceau de l'hospitalité, d'où son appel à favoriser le climat de paix et de vivre ensemble pour le bien-être commun.
Je l'ai dit dans les titres, le chef d'état-major des forces terrestres a présidé hier vendredi au camp-major Vangu à Lubumbashi la cérémonie de présentation et de remise de l'étendard au tout nouveau commandant de la 22e région militaire. Le général de brigade Edi Kapendi-Rung remplace le général-major Moutar Asmif, rappelé à Kinshasa après avoir passé 3 ans à la tête de cette région militaire qui comprend toutes les provinces issues de l'ancien Katanga. Un reportage signé Jean Gandou.
C'est devant les policiers et militaires des différentes unités que cette cérémonie a eu lieu. Prenant la parole, le chef d'état-major des forces terrestres a commencé par rappeler leur serment.
Notre serment est jamais trahir le Congo.
Et par la suite, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal s'est adressé au nouveau commandant de la 22e région militaire.
Général de brigade, Kapen Irung Edi.
Mon général,
à moi,
à vos ordres.
Puis, il a fait la lecture de l'ordonnance les nommant et a invité les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les sous-officiers, les caporaux, les matelots et autres soldats à obéir aux ordres qu'il donnera pour le bien du pays. C'était avant de lui remettre l'étendard.
Général de brigade, Kapend Irung Edi, je vous remets cet étendard, symbole du commandement de la 22e région militaire. Vous le garderez jalousement. Vous le protégerez, vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême.
Le général de brigade Edi Kapend a donc reçu cet étendard, symbole de commandement, qui marque ainsi sa prise de fonction. Et la cérémonie s'est clôturée par les défilés de toutes les troupes présentes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous Jean Gandou pour ce reportage. Mais qui est le général Edi Kapend et comment en est-il arrivé à cette ascension militaire? La réponse dans ce portrait du général de brigade avec Jeff Ngoy.
Le cousin de Laurent Désiré Kabila est originaire du sud Katanga, diplômé d'une licence en philosophie et en droit de l'université de Lubumbashi, formé militairement en Angola au sein des Tigres Katangais. Le 15 mars 2002, devant la cour d'ordre militaire, s'ouvre un procès l'impliquant dans l'assassinat de l'ancien président de la République. À l'issue de ce procès, il est dégalonné sans jamais être révoqué par ordonnance présidentielle. Une décision de condamnation à la peine capitale est prononcée contre lui le 7 janvier 2003. En 2013, en application des résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant au pouvoir d'invalider la décision l'ayant condamné, il est à nouveau mécanisé, selon son avocat, mais sans fonction. En 2021, le président de la République, Félix Tshisekedi, accorde une grâce présidentielle collective à tous les condamnés. Il nous affirme qu'il est en train de préparer sa thèse au terme d'une formation militaire au Tchèque. Idi Kapende réintègre donc l'armée sous le signe d'une citation qu'il aime répéter et qu'il veut l'entendre, ne jamais trahir le Congo.
Autre nouvelle à présent, Luanda, la capitale angolaise, abrite ce samedi le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique australe. L'objectif est d'avancer sur le déploiement de la force militaire attendue prochainement dans le pays et qui est en discussion depuis le 8 mai dernier. Le déploiement des troupes de la SADC ne serait qu'une question des semaines, selon plusieurs officiels congolais qui ajoutent que trois pays de la région contributeurs, les troupes se sont annoncées, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie. Le sommet de ce samedi doit permettre de fixer les dernières modalités après plusieurs rencontres au niveau des chefs d'état-major et des ministres. Et puis, au Nord Kivu, le programme alimentaire mondial PAM annonce la levée de la mesure de suspension de cette distribution de l'assistance alimentaire aux déplacés internes des guerres de Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo. En effet, c'est vers la fin du mois d'octobre que cette agence spécialisée onusienne avait suspendu cette distribution à cause de la situation sécuritaire dans les Nyiragongo. Son chargé de communication motive cette levée dans le souci de continuer à apporter à ses déplacés l'assistance alimentaire en ces moments difficiles. La situation sécuritaire étant toujours volatile, le PAM annonce la délocalisation du site de cette distribution vers Munigi, au reste des bénéficiaires. On écoute Claude Kalinga, chargé de communication du PAM, au micro de Denise Lukeso.
La situation sécuritaire autour des Kanyaruchinya n'étant pas très favorable à nos opérations, nous avons simplement demandé au reste des bénéficiaires qui n'avaient pas reçu leur assistance de se rendre à Munigi où nous continuons nos distributions. Avant la suspension de nos distributions, évidemment suite à la volatilité de la situation sécuritaire autour du camp de Kanyaruchinya, les PAM avaient déjà atteint 90% de distribution alimentaire en espèces à plus de 117 000 personnes. Depuis ce jeudi de novembre, nous avons repris les distributions pour compléter le 10% restant. Le PAM, évidemment, ne va pas abandonner la population vulnérable. Tout va dépendre de l'évolution de la situation sécurité qui est pour le moment très volatile autour de Goma. Et si les choses évoluent normalement, le PAM va continuer ses distributions, ses opérations. Mais cela va dépendre également des moyens que nous continuons à attendre de nos partenaires pour que nous continuons ces distributions.
Merci de nous écouter. Dans la province du Kasaï central, où une mission d'inspection partie de Kinshasa a visité hier le site du micro-barrage de Chute Mbombo pour l'électrification de la ville de Kananga. Dans cette équipe venue de Kinshasa, l'on pouvait retrouver, entre autres, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le directeur général du BCECO et le directeur général adjoint d'Anser. C'est depuis le mois d'août dernier que le gouverneur du Kasaï central avait posé la première pierre pour les travaux de construction de ces barrages situés à 17 km du centre-ville de Kananga. François Kadima, qui a accompagné la mission sur les sites, nous en parle.
Ce projet est le résultat d'un protocole d'accord entre le BCECO et l'ANSER. Alors que l'opinion se pose des questions sur les débuts effectifs de la construction du barrage, l'ingénieur Pierre Loabéa, concepteur du projet, parle d'un début timide des travaux qui prendront 18 mois.
Les travaux ont commencé tranquillement. L'entrepreneur est en train de se déployer. C'est ça le début des travaux. Côté en amont, nous, en tant que concepteurs, on a déjà amorcé et fini une partie de notre travail de conception.
Du côté BCECO, son directeur directeur général a assuré que le financement de ces travaux est déjà bouclé par la société Modern Construction et rien ne va bloquer leur exécution dans le délai. Jean Mabi.
C'est l'entreprise Modern Construction qui s'est engagée à le financer cet ouvrage. Et donc le financement est déjà bouclé. L'entreprise a identifié les prestataires avec qui nous sommes en discussion. Faisons tout pour que les travaux s'exécutent dans les meilleurs délais. Que la population soit sûre que cet ouvrage sera construit.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui conduisait cette mission, a indiqué que le souci est de voir ce projet s'achever rapidement pour l'électrification de la ville de Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors qu'Israël a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est depuis hier vendredi en Israël. Il a appelé à des pauses humanitaires. De son côté, Israël refuse toute trêve temporaire à Gaza sans la libération des otages.
L'invité.
Il s'agit du ministre provincial des Transports et Voies de Communication dans la province du Sud-Kivu. Alima Simalumbi Mathieu dresse le bilan de l'opération de numérisation des véhicules et de l'achat obligatoire des documents exigés aux transporteurs des personnes et des biens dans la ville de Bukavu. Le ministre Alima Simalumbi Mathieu s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le ministre provincial Mathieu Maloubi, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Le ministère avait déclenché une opération de bouclage qui nécessitait à ce que les transporteurs puissent se mettre en ordre vis-à-vis de l'État. L'opération en soi évolue comment aujourd'hui?
L'évolution de cette opération, nous disons que c'est positive. Positive à ce sens que ça a permis aux usagers, aux transporteurs, aux propriétaires de véhicules d'aller chercher les documents convenables, de trouver des documents qui leur permettent de circuler sur la chaussée d'une manière là citoyenne et aussi paisible. Et avant ça, vous voyez presque tout le monde, la plupart des gens, la plupart des propriétaires de véhicules, ils ne s'inquiétaient pas. Et donc, ils n'avaient pas la bonne intention d'aller trouver les documents. Et c'est pas une bonne chose. Ça, c'est de un. Ça a donné quand même un temps de surplus pour que les gens aillent chercher les documents. Et de deux, cette opération nous a aidés dans plusieurs autres choses. C'est-à-dire, ça cadrait aussi avec l'identification des véhicules. Vous voyez la province du Sud-Kivu, nous sommes dans la phase numérique. C'est-à-dire la numérisation de tous les documents de bord. Non seulement les documents de bord, mais la province du Sud-Kivu, qui est dirigée par son excellence Théo Ngwabi Jekasi, nous voulons quitter d'un aspect à un autre aspect. Du mécanique, on va maintenant au numérique. Ça était aussi l'objet de cette opération-là que nous appelons les recouvrements forcés ou bien les bouclages. Ça nous a permis aussi, surtout, à détecter les gens qui ont des documents fraudulés. C'est-à-dire, avec la numérisation des documents, il y a beaucoup de ces gens-là ont trouvé, on ne sait pas de quel niveau ou à quel endroit, des documents qui ne sont pas retracés. Et le bouclage a permis de mettre la main sur la patte de ces filières-là. C'est-à-dire, il y a un réseau, tout un réseau. Et le réseau, on est en train de mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui sont dans la pratique-là de donner à nos concitoyens des mauvais documents.
Une opération réussie, si je vous comprends très bien.
Ah oui, c'est une opération qui a donné du succès. Bien que ce n'est pas tout le monde qui... Jusque-là, il y a des véhicules qui sont cachés par-ci, par-là. Quand on a fait l'opération, il y avait la rareté même des véhicules sur la chaussée. Ça justifiait que, réellement, à Bukavu, les gens ne payent pas les documents. Alors, au fur et à mesure, les gens, quand ils commençaient à acheter, à se procurer les documents, vous voyez maintenant, il y a un afflux maintenant de véhicules. Et ça continue. Ça continue parce que il va maintenant rester l'opération de routine, la police de la circulation routière. Après cette opération de recouvrement forcé, et c'est maintenant la police qui va continuer à vérifier les documents comme d'habitude, c'est-à-dire comme activité de routine.
Et qu'est-ce que l'opération en question a rapporté au trésor public de la province?
Ah non, il doit avoir quelque chose, c'est-à-dire ça a donné aussi des recettes. Vous voyez, s'il y avait 2 personnes qui payaient, mais il y a maintenant 10 personnes qui payent, alors il y a quelque chose de plus pour ce qui est des recettes de l'État. Absolument, il doit avoir des retombées financières par cette opération de bouclage ou recouvrement forcé qui a eu lieu dans la ville de Bukavu.
Certes que les récidivistes ne manquent jamais.
Sur la route, ils vont rencontrer la PCR. C'est à leur intérêt d'aller trouver les documents que d'être, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme tracassé ou comment, mais ils doivent être toujours en ordre. Celui qui n'est pas en ordre, il sera toujours pris dans le filet.
Les documents exigés en guise de rappel.
En guise de rappel, il faudrait que chacun ait son permis de conduire. Il doit avoir le certificat de contrôle technique. Il doit avoir l'autorisation de transport des personnes, l'autorisation de transport des biens, l'autorisation aussi de transport interurbain.
Monsieur le ministre Mathieu Maloubi, je vous remercie.
Notre invité, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Sud Kivu, répondait aux questions de Jean Kassami. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung-Mouchins. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci de nous avoir suivis.